Directement chez le Radio Insolite. Ah là là, la chance que j'ai, le bonheur que j'ai. Je suis avec une star, mais alors attendez, c'est même pas une star locale, c'est pas une star départementale, c'est pas une star régionale, c'est pas une star nationale, c'est même pas une star internationale, c'est une star galactique. Imaginez, monsieur, il fait un passage éclair comme il y a ici sur notre bonne ville de Lyon. Il repart dans 2 heures, il reprend l'avion dans 2 heures, c'est ce que tu m'as dit. Bonjour Stan.
Bonjour Alain, c'est un petit peu extrapolé, mais je prends quand même avec plaisir ce genre d'honneur.
C'est pas ce que tu m'as dit, non?
Oui, mais ça c'était les blagues du off.
Ah pardon, c'était... Ah, c'est... Alors le off c'est quand on ne doit pas dire, on ne doit pas répéter, d'accord.
Ouais, non, parce que pour faire le making-of de ce que je t'ai dit, c'est vrai que je sors d'une interview avec un autre média, donc j'enchaîne avec toi et c'est un vrai plaisir de te retrouver, mais en réalité j'ai rien après, voilà.
Bah c'est gentil, je suis le dernier de dernière roue du carrosse, comme on dit.
Oui, mais est-ce que tu n'étais pas disponible plus tôt, me semble-t-il? Non, c'est toi qui as fixé 18h avant que je dise 18h30.
Alors, je vais te répondre clairement, je ne suis pas comme toi, je ne suis pas musicien, j'ai un vrai travail, moi.
Bah, je m'incline, alors effectivement. Excuse my French.
Ah oui, alors attends, en plus, monsieur, il parle anglais. Oui. Comme ça?
Non, mais effectivement, ouais. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te retrouver. Et puis, je suis très content de pouvoir aussi parler de mon nouveau disque, parce que c'est 1 an et demi de travail. Donc, voilà, maintenant que c'est sorti, je suis hyper souriant et très content.
Ah non, non, mais attends, tu viens de faire de la provoque et tout. Et les auditeurs ne peuvent pas comprendre. Pourquoi tu as dit excuse my French?
Eh bien, parce que c'était le titre de mon ancien album, en fait. C'est pour ça. C'était un clin d'œil entre nous. Voilà.
Tu viens d'avoir 18 ans, tu en es à ton 15e album, c'est bien ça?
Je rêverais que ce soit vrai, quoi. Si seulement, quoi. Franchement, je donnerais mes...
Le 15e album ou les 18 ans?
Non, je donnerais 15 albums pour avoir 18 ans. Et pourtant, hein, tu vois, la musique, c'est toute ma vie. Mais la jeunesse a tous les droits, comme le dit un des titres de mon nouvel album, justement. Et j'aimerais bien encore avoir 18 ans, ouais.
Bon, t'as un tout petit peu plus, mais c'est pas grave.
Ouais, je vais bientôt avoir... Enfin, j'ai plus du double, déjà. Et bien, j'ose pas calculer.
18 par 2, ça fait 25, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises.
J'ose pas calculer pour savoir si j'ai bientôt x3, alors on va s'arrêter là, quoi. On va dire que c'est plus du double, ouais. C'est déjà trop.
Qu'est-ce qui t'a fait tomber dans la musique en étant tout petit?
Mais justement, l'idée de baigner dans un environnement où il y avait beaucoup de musique dans les médias de l'époque, tu vois. Il y avait la radio, on écoutait de la musique et pas des micro-trottoirs. On mettait la télé, il y avait de la musique et pas des chaînes d'infos en continu. Donc évidemment, c'était un environnement culturel qui donnait beaucoup de plaisir. Plaisir à écouter et puis plaisir d'en faire aussi. Ça m'a donné envie d'en faire, voilà. Tout simplement.
T'as reçu une guitare en cadeau, t'as reçu... C'est
comment? Au bout d'un certain moment, j'ai eu envie effectivement de passer à l'acte. Donc la guitare était un instrument qui me semblait assez accessible. Et donc j'avais commencé à prendre des cours vers 11-12 ans, tu vois. Et puis ça m'avait pas bien plu parce que c'était un peu scolaire. Donc j'avais à remiser ça. Et puis après, l'élément déclencheur, c'est l'adolescence. Et puis les copains au lycée où on fonde un premier groupe pour faire des reprises maladroites de Nirvana. Et puis des groupes comme ça qui jouaient à l'époque. On s'identifie un peu. Et puis petit à petit, on commence à faire des choses un peu plus artistiques.
Ouais. Parce que Nirvana, c'est de la musique.
Ben pour moi, c'est, tu sais, voilà, les deux éléments déclencheurs, c'est l'environnement familial et puis c'est la cassette. À l'époque, c'était encore des cassettes que m'a passé un copain dans le métro en me disant « Tiens, j'écoute ça en ce moment, écoute, c'est vachement bien. » Et ça m'a électrisé, c'est peut-être pas de la musique, mais peut-être du haut voltage, tu vois. C'était peut-être du 220 volts et voilà, et ça m'a fait devenir un musicien quelques années plus tard. Ouais.
De là, en faire ton métier.
Ouais, de là en faire mon métier. Au début, c'était vraiment l'idée de jouer de manière très organique, corporelle. Mais à côté de ça, quand même, j'ai toujours été très intéressé par l'écriture des textes, par les chansons en français. Tu vois, tu me dis que Nirvana, c'est pas de la musique, mais c'est vrai que j'écoutais aussi des choses où il y avait un propos, c'était pas juste une posture ou de l'énergie des pensées. Donc, petit à petit, mon intérêt pour les deux, c'est matérialisé. Et je me suis dit, bah, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, quoi. Effectivement, tu vois, ça faisait, il y avait les deux facettes, quoi.
Il y a quelqu'un qui t'a inspiré plus particulièrement? Tu parles de Nirvana, il y en a peut-être d'autres.
Après, bah, quand j'ai commencé moi à commencer à écrire, parce que c'est ça qui m'intéressait aussi, évidemment, je n'écris pas en anglais. Donc forcément, j'avais envie d'écrire dans la langue que je maîtrise parce que j'avais envie d'avoir un peu de donner du sens à ce que je chantais. Et donc, voilà, dans cet univers un peu rock, tout en restant français, on cite évidemment Alain Bashung, moi dans une moindre mesure, Stéphane Escher aussi, c'est une grosse référence pour moi. Voilà, donc c'est un peu les deux artistes que je cite tout le temps. Dominique A aussi, tu vois, voilà, un peu moins célèbre, quoique encore, mais qui a été une influence un peu plus tardive. Donc on peut dire que c'est ces références-là, ouais, toujours.
C'est quoi ton inspiration? C'est la vie de tous les jours?
Ouais, finalement, au début, quand tu commences à écrire des textes de chansons, tu parles de toi, quoi. Tu parles de tes sentiments personnels ou de ta place dans la vie, en fait. Puis petit à petit, évidemment, tu t'ouvres aussi parce que tu grandis et que tu prends de la maturité. Puis tu rencontres de nouvelles problématiques dans la vie. Donc forcément, tu te mets à parler de ça et puis tu te mets aussi à t'ouvrir aux problématiques des autres. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, j'ai toujours été assez sensible à cette dimension un peu sociologique. C'est un bien grand mot par rapport à un auteur de chansons, mais c'est un peu ça mon approche quand même. Ouais.
Tu m'inquiètes, là, je t'ai jamais vu aussi sérieux.
Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je me suis dit, à un moment, il va me reprocher de répondre à ces questions. Bah écoute, je fais mon job, mon cher ami. Hein. Oui, oui. Mais comme je te disais, je suis content de sortir mon disque et d'en parler. Donc c'est vrai que j'essaye d'être un élève discipliné.
Alors, question bête ou intelligente, à toi de choisir. Pourquoi un an et demi?
Un an et demi, c'est-à-dire?
Tu dis que ça fait un an et demi, que tu as mis un an et demi à sortir le disque?
Oui, oui, pardon, c'est vrai. Oui, on a commencé les premiers enregistrements de cet album il y a un an et demi. Et alors, comme j'ai d'autres activités aussi en tant que musicien au sein du label Stardust, des projets à gérer, de la direction artistique, j'ai dû faire des pauses pour la conception de ce disque afin de m'occuper d'autres projets. Mais en même temps, j'avais pas beaucoup de réserves sur ce disque. Il a fallu que je repasse du temps à écrire des chansons et ça m'a pris beaucoup de temps en fait parce que c'est comme un sport en fait. Si on n'écrit pas de manière régulière, voilà, ça, on perd un peu le mojo quoi. Et donc j'ai mis du temps à écrire les textes et à être satisfait des textes que je voulais écrire. Donc c'est pour ça aussi que je laissais passer du temps entre différentes séances de studio pour pouvoir vraiment arriver avec les chansons que je voulais. Ouais.
Et alors, tu t'es pas gêné, tu as carrément pris la route de l'abbaye.
En fait, bah, ça rejoint tes questions de tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a donné envie d'être musicien et d'en faire mon métier, c'est la passion d'auditeur. Donc, à partir de là, je ne cesse d'aller à la quête du Graal et d'essayer de découvrir des choses qui me faisaient frémir quand j'étais jeune. Alors, je suis pas allé à Seattle, tu vois, enregistrer ou je sais plus.
Memphis.
Non, mais Seattle, c'est là où est né Kurt Cobain. C'est pour ça que je cite ça, mais c'est pas là où il a enregistré Nevermind. Je me rappelle plus de la région dans laquelle, aux États-Unis, dans laquelle il a enregistré cet album. Mais quoi qu'il en soit, un des endroits mythiques aussi quand on est musicien et qu'on aime enregistrer en studio, c'est Abbey Road. Donc voilà, le studio des Beatles. Donc on a eu cette incroyable chance de pouvoir y aller. C'était pas gagné parce que même si maintenant il y a beaucoup moins d'artistes qui vont et que les politiques tarifaires sont pas les mêmes qu'à l'époque où les labels phagocytaient ces studios-là parce qu'ils en avaient un besoin permanent, alors que maintenant tout s'enregistre sur ordinateur, donc il y a beaucoup moins de besoins, il faut quand même justifier d'un parcours professionnel artistique. On peut pas s'offrir à Abbey Road comme ça par plaisir, même si c'est libre. Ils sont extrêmement méticuleux. Et il a fallu carrément faire un dossier de présentation pour montrer qu'on avait le droit d'enregistrer de la musique là-bas parce qu'on allait en faire quelque chose de bien en France, quoi. Tu vois, des concerts, de la promo, un vrai disque et pas juste un happening comme ça de quelques jours, quoi.
C'est quoi? C'est l'équipement? Ce sont les techniciens qui sont beaucoup plus pointus là-bas?
Non, désormais, en toute sincérité, il n'y a plus grand intérêt sonore à aller enregistrer là-bas, quoi. D'ailleurs, quelqu'un qui écoute mon disque, à aucun moment, il se dit « Tiens, ça, c'est enregistré à Abbey Road ». On peut arriver quasiment au même résultat. C'est un peu triste, mais en même temps, c'est le progrès technologique. C'est comme ça, et pourquoi pas. La différence fondamentale, et c'est pour ça qu'on y allait, bon, on y allait un peu pour le mythe, bien sûr, mais pas uniquement, tu vois, parce que sinon, on y serait allé en touriste, en fait. On ne serait pas venu avec notre matériel jouer, quoi. C'est que ça nous a mis aussi dans un état émotionnel qui fait qu'on a joué d'une certaine manière qu'on n'aurait jamais pu trouver ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Je suis parti avec deux musiciens qui, comme moi, étaient très fans des Beatles, pour qui ça représentait quelque chose sur le plan familial, personnel, intime. Et donc, jouer ensemble là-bas, c'était pas comme jouer ailleurs. Voilà. Voilà. Ça, c'était hyper important pour moi, de capter une espèce de vibration. Voilà, peut-être que le disque aurait été quasiment pareil, ou aussi bien, ou aussi mauvais pour ceux qui l'aiment pas, si on l'avait fait ailleurs. Mais moi, je sais qu'il a été enregistré comme ça et c'est super important.
Bon, il n'y a pas que Londres. Il y a aussi Budapest.
Ouais, alors, à chaque album, j'aime faire des projets un peu différents. Le précédent, il a été enregistré très vite avec les mêmes musiciens au même endroit. Donc là, il a été enregistré sur un an et demi avec plein de musiciens différents. Et on a commencé à Abeyrode. Alors, je me suis dit au début, bon, où est-ce qu'on va continuer, quoi. Alors, j'ai enregistré aussi à Paris, à Lyon, hein, pas mal, l'essentiel. Et puis, j'ai rencontré François Rousselot, qui est un chef d'orchestre de Vierban, et qui, lui, était OK pour faire des parties d'orchestre symphonique. Mais lui, il enregistre à Budapest. Donc, au lieu de me retrouver avec l'harmonie de Vierban, je me suis retrouvé avec le Budapest Symphony Orchestra à Budapest pour enregistrer 6 titres de mon album. Ils ont fait les parties orchestrales et c'est carrément bouleversant, quoi. Toi, si tu veux, tu es là avec, au début, ta petite mélodie que tu fais sur ton canapé à la guitare, avec tes enfants autour qui font du bruit, tu n'arrives pas à te concentrer. Puis, au bout d'un moment... tu fais tout le travail qui permet d'aller à Budapest pour que les 28 musiciens jouent tout ça tout d'un coup, tu tombes à la renverse, quoi. C'est hyper, hyper émouvant. Ouais.
Mais alors, c'est quel type de musique qu'on a sur cet album ?
Eh ben, c'est plus orchestral, plus instrumental que sur les précédents. Il y a des chansons, bien évidemment, mais il y a aussi des interludes entre les chansons pour faire comme un récit sans interruption. Il n'y a pas de coupure, en fait. Ça s'écoute d'une traite. Alors, je sais très bien que ça ne s'écoutera jamais d'une traite par les jeunes générations qui sont au streaming et tout ça, ou même par les gens qui n'ont pas envie de consacrer 55 minutes à un album. Ça ne s'écoute plus comme ça maintenant. Mais ce n'est pas grave, il a été fait comme ça. Et c'est comme un voyage, en fait. Donc, même si on prend des portes d'entrée au milieu, à la fin, qu'on coupe avant ou qu'on rate le début, il y a une atmosphère. Et ça me plaisait beaucoup de faire quelque chose de très instrumental. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de musiciens, l'orchestre symphonique, mais il y a aussi des percussions, un trompettiste sur un titre. Il y a beaucoup de guitares, il y a plein de trucs un peu atypiques. Des voix comme ça qui viennent d'extraits de films, des textes qui sont lus dans les interludes. Voilà, c'est un peu original. Et moi, ça m'a beaucoup amusé de faire un truc différent du précédent.
L'album s'appelle Synopsis. Pourquoi Synopsis ?
Et bien, quand j'ai commencé à réfléchir à l'idée d'un disque sans interruption, ça m'a fait penser à une musique de film, à l'idée d'une musique de film où il y aurait des chansons au milieu, quoi. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, il y a un peu un projet comme ça autour du cinéma. Moi, je suis très fan de cinéma. On s'était rencontrés à cette occasion, d'ailleurs, quand on avait fait le projet Ciné-Song avec le label Stardust, là, autour du Festival Lumière, en 2021, 22 et 23. Hein, c'est une longue histoire. Et j'avais toujours quand même en tête l'idée d'insérer des extraits de films dans mes chansons. Je trouvais ça un peu romanesque. Voilà. Et là, comme l'album, il est un peu comme une musique de film, je me suis dit, bon, bah là, il y a des musiques. J'ai mon idée parfois d'insérer des dialogues. Il n'y a pas de pause entre les chansons. Ça raconte comme une histoire un petit peu. Et ben voilà, trouvons un mot qui ressemble à l'univers cinématographique. Bon, bah, c'était tombé sur Synopsis, parce que j'aime bien la consonance. Et puis la pochette aussi a été photographiée dans une salle de cinéma, vide. Voilà.
Bon, les questions maintenant. Je suis obligé de te la poser, j'ai pas le choix. J'y vais ?
Oui, bien sûr, vas-y.
C'est quoi son prénom ?
Moi, c'est Stan.
Arrête de me prendre pour ce que je suis pas.
Alors, la personne qui pose sur la photographie, puisque la pochette recto, c'est la représentation de jambes dénudées dans une salle de cinéma vide, ce ne sont pas mes jambes, c'est effectivement un modèle, donc tu souhaites avoir l'identité et les coordonnées peut-être en même temps.
Commence pas, je t'ai demandé son prénom simplement.
Mais alors, en fait, c'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est la photographe qui l'a choisi pour le shooting photo, c'est un modèle qui s'appelle Laetitia.
Voilà. Bonjour Laetitia, impatient de faire ta connaissance. Les titres, alors les titres, il y a tous les styles. Hein. Ça va de début de siècle, quelques jours avec toi, synopsis, quand les lumières s'éteignent, l'équilibriste, et puis je n'oublie rien, la jeunesse a tous les droits. Ce sont des messages à chaque fois.
Ouais, alors j'ai commencé par enregistrer les mélodies sur cet album et j'avais pas écrit les textes avant, mais je voulais faire un truc comme ça, au lieu de commencer par les textes, comme on fait souvent. Et j'avais par contre les thèmes. Je voulais parler, voilà, à chaque fois. Alors, début de siècle, ça récapitule un peu les 25 premières années du 21e siècle et des problèmes qu'on a pu avoir, politiquement et sociologiquement. Je n'oublie rien, c'est plus une chanson un peu de souvenir, de jeunesse. d'aventure amoureuse. La jeunesse a tous les droits, bah voilà, c'est une revendication de la jeunesse d'aujourd'hui qui est quand même bien en difficulté avec la vie qu'on leur a offerte. Il y a un titre aussi qui parle de une chanson qui s'appelle Imola, qui parle de l'accident de voiture de Ayrton Senna en Formule 1, qui moi est un élément marquant dans ma jeunesse parce que je regardais beaucoup la Formule 1 avec mon papa. Et voilà, donc c'est une chanson qui parle aussi de des gens qui ont des parcours atypiques, des vies extravagantes. Moi, je suis fasciné par ça en fait. Voilà. Et donc, si tu veux, voilà, il y a plein de thématiques un peu différentes, mais malgré tout, elles se croisent autour d'un dénominateur commun qui est quand même un peu l'observation des relations humaines, quoi, et de ce qu'on fait en relation avec les autres. Quoi.
L'album est sorti fin novembre. À quand les concerts ?
Ouais, l'album est sorti le 28 novembre et les concerts ont déjà commencé. J'ai joué samedi dernier à Bourg-lès-Valence dans un festival, Music Fest. Là, je serai à Saint-Étienne le 18 décembre au Fil pour un coplateau avec le groupe 21 Grammes. Et puis après, bah, ça continue en janvier, le vendredi 16 janvier au Vox à Bourg-en-Bresse, puis le 22 à l'Empérage à Grenoble. Et puis après, eh ben, pas mal de dates qui ne sont pas encore officielles, mais qui vont arriver un peu partout en France. Ouais, voilà. Avant, peut-être une date parisienne et puis des dates, beaucoup de dates cet été. Là, voilà. Mais on saura bien.
Alors évidemment, tu as parlé du Festival Lumière. Il y a eu deux temps forts que tu as vécu avec l'album Ciné Songs. Ciné Songs 1, Ciné Songs 2, c'est-à-dire les chansons, les artistes lyonnais qui faisaient des chansons de cinéma. C'est du passé ou c'est toujours actuel ?
Non, il n'y aura pas de Ciné Songs 3, 4, 5, 6. On aurait continué tant que les partenaires étaient OK, en fait. Il se trouve que, bon, voilà, on a fait une première édition. L'idée, c'était d'en faire deux, quand même, parce qu'il y avait deux volumes. C'était artistiquement organisé comme ça. Après, on a fait un grand concert la troisième année à la Bourse du Travail. Mais bon, voilà, le projet, on avait fait le tour du projet, je pense. Et c'est très bien. C'est un projet qui a le mérite d'exister, de vivre. Et on a été très, très contents de le faire. Je trouve qu'artistiquement, c'est un projet qui est vraiment de qualité, qui met bien en valeur les artistes de la scène lyonnaise, ce qui est un peu le mot d'ordre du label Stardust. Donc à cet égard, on considère que la mission est accomplie, quoi.
Où est-ce qu'on peut trouver l'album ?
Alors l'album, il est en écoute évidemment sur les sites de streaming, Spotify, Deezer et tout ça. On peut se le procurer en vente physique dans les magasins habituels, Fnac, etc. Amazon aussi, enfin en ligne évidemment, ou alors sur mon site internet également, stanmatisse.com.
Ton rêve ?
J'ai pas vraiment de rêve. Moi, mon rêve, c'était d'enregistrer dans des studios ou avec des musiciens qui me faisaient rêver quand j'étais enfant. Et si tu veux, voilà, j'essaye d'album en album d'accomplir ce rêve-là. Il me reste une ou deux cibles un peu mythiques auxquelles je rêve, mais rien d'extravagant. Et c'est toujours des rêves de studio. Je rêve pas de faire le Stade de France, tu vois, ou les rêves de concert, ça m'intéresse pas. Je suis plus quelqu'un du studio, moi. Voilà.
Tu m'as volé la question que je voulais te poser, c'est quand le Stade de France ?
Non, mais jamais, jamais. J'ai pas l'envergure pour ça. Et je suis même pas sûr que ce serait très intéressant vu le manque d'expérience de ce genre de scène que je peux avoir. Si tu veux, pour faire le Stade de France, il faut toute une armature, scénographie, pyrotechnique. C'est super, hein, mais moi, je ne joue pas dans cette cour-là, quoi, et c'est pas grave. Hein, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter ?
Une belle année de concert. Voilà, c'est ça dont j'ai envie là maintenant. Tu vois, j'ai passé un an et demi un peu en laboratoire. Et même si je préfère le studio à la scène, je suis quand même très très heureux sur scène. J'ai fait énormément de concerts depuis que j'ai développé mon parcours. Donc là, je suis très impatient de les jouer aussi en trio avec deux autres musiciens et de les présenter effectivement au plus grand nombre et de tourner, de rencontrer des gens. C'est toujours très très sympa ça.
Eh ben super, bah, écoute, je te dis merci.
C'est moi qui te remercie, Alain. Merci beaucoup.